On s'en va rejoindre Luc Lavoie. Bonjour Luc.
Allô, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Pas mal, pas
tu
mal.
Tu nous amènes à l'international aujourd'hui. Ça bouge dans les rues de Hong Kong. Il y a une foule de près d'un million de personnes qui a manifesté contre un projet de loi controversé. D'abord, rappelle-nous un peu où se trouve Hong Kong sur l'échiquier politique, Luc. Ça a été une colonie britannique pendant 155 ans. Ça a été rétrocédé à la Chine en 97. Qu'est-ce que ça a changé pour la population locale, ce fait d'être rétrocédé?
Il faut d'abord savoir que Hong Kong, qui est directement sur la frontière de la Chine, évidemment, c'est une île. C'est une île avec un tout petit morceau de territoire. J'y suis allé plusieurs fois. Okay. C'est une des villes les plus impressionnantes au monde. Mais avant la rétrocession, Hong Kong vivait juste à côté de la frontière chinoise et ça servait les intérêts de la Chine parce que c'était le transit, la zone de transit pour s'en aller vers le marché capitaliste et inversement. Donc, ils maintenaient comme une entité capitaliste à leur frontière. Un jour, les questions d'orgueil national ont commencé à s'en mêler. Hong Kong, j'y étais, moi, à l'époque où c'était britannique, j'y étais quelques fois, en tout cas, peu importe. Il y avait un côté très british à Hong Kong, malgré le fait qu'on était en Chine. Et en 97, il y a eu un accord de rétrocession qui a été négocié par Margaret Thatcher avec les autorités chinoises. L'accord a dû être signé, je crois, vers 87 ou 88 pour entrer en vigueur en 97. Et l'accord dit que pendant 50 ans, la Chine s'engage à maintenir un système séparé à Hong Kong. Okay. Ils appelaient ça un pays, deux systèmes. Donc, Hong Kong demeurait capitaliste pour l'essentiel et Hong Kong demeurait aussi beaucoup plus ouverte à la presse étrangère, à tout ça. Donc, ils voulaient garder à Hong Kong le rôle central qu'Hong Kong avait joué depuis si longtemps, ce rôle transitoire vers le reste du monde. Mm-hmm. Alors, cet accord-là, il tient jusqu'en 2047. Mais entre-temps, dans l'accord, il y avait aussi le fait que Hong Kong devenait maintenant partie intégrante de la souveraineté chinoise et que, de ce fait, devenait une zone à protéger par l'armée populaire de Chine. Il y a beaucoup des symboles de la Grande-Bretagne, presque tous, qui sont disparus. Mais jusqu'à maintenant, ça marchait assez bien. Les Britanniques s'étaient essayés à la fin, juste avant la rétrocession, de forcer la Chine à accepter qu'il y aurait une démocratie à l'occidentale, une démocratie libérale. Et ils se sont fait envoyer promener par les Chinois qui ont dit l'accord qui a été négocié, il était intégralement celui qu'on a accepté, puis ça finit là.
Donc là, Hong Kong a ses propres institutions, mais oui. Les gens sont nommés par le gouvernement chinois, c'est ça que je comprends?
Oui, sauf que ils ont gardé la tradition importée ou venue d'Angleterre, qui est d'avoir un système de loi à peu près comparable au nôtre, tout ce qui concerne les droits de la propriété, les contrats civils et tout ça, ce qui est loin de ce qu'ils vivent en Chine. Mais là, la Chine est de plus en plus agressive à l'échelle du monde. De plus en plus agressive, enfin, ça devient de plus en plus inquiétant. On savait qu'ils étaient en croissance et qu'ils étaient sur le point de devenir la plus grande puissance mondiale. Sauf que on n'avait pas été habitués, puis Dieu soit loué, à leur agressivité qui est en train de se montrer un peu partout, dont ici au Canada, on peut en parler. Et puis là, les Chinois ont dit, ben écoutons, nous autres, on va juste changer une petite loi, c'est la loi sur l'extradition. En d'autres mots, la Chine serait capable de dire à Hong Kong un tel, le dissident XYZ qui a parlé, qu'on dit Xi Jinping, tu mal l'amènes ici. Et là, évidemment, la population a dit, hey, wow, voilà la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, là, c'est un pays, deux systèmes, vous commencerez pas, bon. Et la manifestation a été essentiellement pacifique, il y a eu des casseurs un peu à la fin, là. Je me demande si c'était pas les mêmes qu'on voyait à Québec, puis ils étaient masqués aux autres aussi. Ben, c'est ça, c'est cette même gang-là. Peut-être qu'il y avait quelques-uns de la meute aussi, puis de la Talente.
Ouais, mais les billets d'avion coûtent cher, Luc.
C'est cher, hein?
Ouais, c'est cher.
Pour aller briser des vitrines, c'est tant qu'on va faire ça ici. Là, on va attendre la prochaine manif.
Avec des boules de billard. Ouais. Mais là, cette grande manif qui, selon la police officielle, c'est 250 000, selon les organisateurs, 1 million, ouais. Ça veut dire que ça doit être 500 000. Les images étaient impressionnantes. Il faisait une température insupportable, comme 40-42 degrés Celsius. Je te dis qu'Hong Kong en été, c'est pas drôle. Et bon, ça s'est fait assez pacifiquement, mais en même temps, ils ont eu droit comme réponse à un doigt d'honneur en provenance de Pékin. Ils sont en train de pousser la loi là, pendant qu'on se parle, là, est en train d'être adoptée.
Et penses-tu que ça pourrait avoir des répercussions dans les mois à venir, que les gens de Hong Kong vont continuer à rouspéter, ou est-ce que c'était une manif, le gouvernement chinois répond
pas? Ils ont pas beaucoup de choix. Hein.
Ouais.
Je veux dire, les gens de Hong Kong, bon, ce sont des Chinois de la même ethnie que ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont devant eux cette gigantesque superpuissance qu'est la Chine. Ils sont Chinois eux-mêmes de la même ethnie, tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Que Hong Kong tente de devenir indépendant? Ils n'ont pas la moindre chance d'y parvenir et la Chine ne le tolérerait pas. En fait, la Chine est plutôt de l'esprit inverse. Ils sont en train de vouloir rapatrier Taïwan de plus en plus. La pression devient militaire, économique et tout ce que tu veux. Alors, ils n'ont pas beaucoup le choix. Ils n'ont pas beaucoup le choix. C'est clair qu'ils vont être obligés de vivre avec. Mais c'est comme un avertissement au monde entier. Là. La Chine, il n'y a plus rien de rigolo dans ça. Là. Mm-hmm. Avant ça, on regardait ça à l'île, miracle chinois.
Exact. La croissance à deux chiffres, 10, 11, 12 % de PIB par année, c'était exceptionnel.
Puis, hey, écoute, ils se sont relevés tellement vite, puis ils ont sorti 700 millions de personnes de la pauvreté. Ce qui est vrai en passant. Ouais. Ce qui est vrai en passant. Mais il y a une aile du Parti communiste chinois, parce qu'il faut jamais oublier que c'est un régime communiste totalitaire. Il y a une aile plus radicale, Xi Jinping la représente, et c'est eux autres qui sont au pouvoir. Puis là, ben écoute, on a adopté quelques méthodes capitalistes, mais fondamentalement, ici, c'est une société marxiste dont la propriété est celle de l'État. Alors, c'est un avertissement, c'est un signe de plus, et ça s'inscrit dans un grand mouvement géopolitique à l'heure actuelle, pour lequel Trump a beaucoup à voir. Mm-hmm. Ce grand jeu géopolitique, c'est que la Chine se dit, bon, Trump a envoyé promener l'Europe, ses alliés traditionnels. L'Europe ne peut pas survivre en étant seule, il faut qu'elle soit branchée dans un camp ou dans l'autre. Et quand vous regardez une carte géographique, étendez-la sur le mur, vous allez voir qu'il y a l'Europe puis l'Asie, c'est la même masse terrestre. Il y a donc un continent que les géopoliticiens ont toujours décrit comme étant l'Eurasie. Et là, l'Eurasie, les Chinois, ils l'ont en tête. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de mettre en place le plus gros projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité, ce qu'on appelle la route de la soie, là, qui est l'ancienne route de la soie de Marco Polo. Mais c'est une route de la soie qui comprend des trains à grande vitesse, des aéroports ultra sophistiqués, des autoroutes, tout ce que tu veux. L'idée étant, on va relier les deux morceaux de l'Eurasie. Nous serons la puissance dominante et l'Europe les pays d'Europe seront nos partenaires. Et ça, ben, ça a des conséquences absolument immenses sur des tas de choses, là. L'isolationnisme américain et son rapprochement avec tout ce qu'il y a de dictateurs sanguinaires, c'est un peu ce que ça donne comme résultat. Avant, la Chine n'aurait jamais essayé un projet comme la route de la soie. Mais à l'heure actuelle, la Chine a besoin de pétrole, il y en a au Moyen-Orient, ça fait partie de l'Eurasie. La Chine a besoin de minéraux, ils ont acheté à peu près l'Afrique en entier, puis j'exagère pas, là, littéralement, ils achètent les pays, et puis les minerais qui viennent avec. La Chine est en train, évidemment, de signer toutes sortes de pactes de coopération avec divers pays d'Asie, éliminant du fait la suprématie américaine dans la région et la suprématie américaine qui s'appuyait sur un Japon qui était très puissant et beaucoup plus avancé technologiquement et industriellement à l'époque que la Chine. Mais là, le Japon est en train de se tasser.
Et vieillissant aussi, là.
Vieillissant, vit sur une quasi-récession ou demi-récession, genre croissance d'1% par année depuis 15 ans. Et on voit pas le jour où ils vont s'en sortir. C'est un pays qui ne reçoit pas d'immigration, donc pénurie de main-d'œuvre, le mot est faible, je veux dire vieillissant, pénurie de main-d'œuvre, tout ce que tu veux. Et pendant ce temps-là, la Chine, eux autres, c'est go, 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 en avant, de plus en plus en plus vite. Mm-hmm. La Chine, pendant son grand boom économique, a amassé des liquidités qui défient l'entendement. Je veux dire, ils disposent de centaines de milliers de milliards de dollars qu'ils sont prêts à dépenser pour des questions comme les infrastructures dont je parle, là, qui vont couvrir le continent en entier, ou alors à dépenser pour des acquisitions militaires. Ils sont en train de construire leur deuxième porte-avions et à la différence de la plupart des pays en termes d'armement, au lieu d'acheter de l'équipement américain, britannique, français, tout ça, ils ont développé leur propre expertise. Ils ont leur propre avion de combat, ils ont leur propre bombardier, ils ont maintenant leur propre porte-avions. Alors voilà, Le défi de la Chine via Hong Kong, c'est ça. C'est toujours ça. C'est le défi de notre génération.
Merci d'avoir été vulgaire avec nous. Tu nous as bien vulgarisé ça. On se reparle demain.
Hey, j'étais vulgaire, vraiment.
Ben oui, 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 ça t'arrive.
Veux-tu que je le sois?
Non, ça va. Je veux pas me mettre dans le trouble avec les
bébé
boss.
Bébé chinois content.
Salut, Luc, à demain.
Bye.
Salut, bye.